Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Tout va bien ?
Ça va très bien.
Cette semaine, vous le savez, Donald Trump et Kim Jong-un se retrouvaient à Hanoï pour un nouveau sommet. La rencontre devait permettre d'avancer sur l'épineux dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais ne semble pas avoir été à la hauteur des espoirs. Quel bilan peut-on tirer de cette nouvelle rencontre ? Quels sont les blocages à lever ? Peut-on croire dans le recul de la menace nucléaire dans la région ? Autre point de tension d'ailleurs dans la zone, l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires aussi. Et puis au-delà de la région, le monde est-il en train de renouer avec le risque d'un conflit nucléaire dans une période où le système d'encadrement des armes atomiques est en train de s'effondrer, notamment avec le retrait des États-Unis et de la Russie du traité sur les armes nucléaires à l'automne dernier. Pour évoquer toutes ces questions, Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, programme Corée. À vos côtés, Corentin Brousselin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Avant d'évoquer ce cas de la Corée du Nord et plus généralement de cet enjeu du nucléaire dans le monde, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qui nous revient ce matin du Nigeria, c'est Khalia Kadiri. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc journaliste au Monde Afrique. La semaine dernière, les Nigérians ont été appelés pour des élections générales, notamment une élection présidentielle. Le scrutin a connu quelques rebondissements puisque le jour de l'élection, on a reporté le scrutin. Finalement, le scrutin a eu lieu. Il a vu la victoire du président sortant, Mahamudu Bouhari. Vous êtes intéressé, vous, à cette campagne, mais aussi plus généralement à la société nigériane elle-même, aux difficultés économiques qu'elle connaît, et on y reviendra. Mais d'abord, peut-être sur le scrutin lui-même. On a appris en milieu de semaine que c'est donc finalement l'actuel chef de l'État qui sera reconduit pour 4 ans. Il l'a emporté avec 56% des voix face à son principal rival, Atiku Abubakar, qui lui a obtenu 45% des voix. Quand on discutait de cette élection avant le scrutin, la plupart des observateurs nous disaient qu'on aurait un duel serré. Et finalement, on a quand même une victoire assez large, voire très large, du président sortant. Comment le comprendre ?
Alors, en effet, on s'attendait à un duel serré et finalement, M. Bouhari l'a emporté assez largement avec 56% face à 41% de la part d'Aboubakar. Et on le comprend de toute façon parce qu'il y a un vrai défi démographique au Nigeria et c'est grâce à ça que Bouhari l'a emporté. Alors, malgré son bilan qui est assez décevant, il a quand même beaucoup de partisans dans le Nord. Le Nord est plus peuplé, plus pauvre, moins éduqué et donc l'embrigadement y est plus facile. Et dans le Nord, on vote pour l'homme fort. Et c'est Bouhari, l'homme fort, dans cette partie du Nigeria qui est vraiment peuplée. On a un taux de fécondité qui est entre 6 et 8%, 8 enfants par femme. Donc c'est énorme et c'est là qu'il a eu, en fait, c'est de là qu'il tient son pouvoir.
Vous nous rappelez pourquoi le scrutin a été repoussé ?
Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été repoussé à la dernière minute. Donc, quelques heures à peine avant l'ouverture des bureaux de vote, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont trouvé leur bureau fermé. En fait, c'est d'abord des raisons logistiques, puisque la commission électorale n'a pas réussi à ouvrir les bureaux de vote à temps. Il y a eu des bureaux brûlés. C'est quand même un grand territoire, donc... Le transport, c'est compliqué pour amener les bulletins, etc. Et donc, à la dernière minute, ils se sont rassemblés, ils ont décidé que c'était tout simplement impossible.
Vous évoquiez les enjeux démographiques, mais il y a aussi peut-être un autre élément qui explique cette large victoire, parce que vous dites que ça a été un scrutin sans véritable enthousiasme. S'il a été sans enthousiasme, c'est aussi parce qu'il y a une montée en puissance très importante. Alors, c'est pas seulement vrai au Nigeria, mais c'est peut-être vrai en particulier là-bas, une montée en puissance de la défiance vis-à-vis de la classe politique. Et qu'avec cette jeunesse extrêmement importante. Alors là, pour le coup, on revient sur les questions démographiques. Évidemment, ça joue très fort.
La jeunesse, c'est...
Elle a plus confiance.
Non, et il faut rappeler que c'est 60% de la population nigérienne à moins de 30 ans. Donc, face à des candidats, les deux principaux candidats avaient respectivement 72 et 76 ans. Donc, c'est des gens qui ont été dictateurs dans les années 80, qui ont fait partie de la dictature militaire. Donc, les jeunes en ont marre. La classe politique ne se renouvelle pas et ne correspond pas, en fait, aux attentes de changement de cette jeunesse nigériane qui est quand même très, très active. Et qui n'a plus aucun enthousiasme face... Et d'ailleurs, le taux de participation qui n'a pas dépassé les 40% reflète quand même ce manque d'enthousiasme de la part de la population. Et il y a eu aussi, évidemment, le report du vote parce que ce sont des millions de gens qui ont dû se déplacer à travers le pays pour aller voter dans leur localité d'origine. Et ça coûte très cher, les déplacements dans un pays aussi grand et qui ne sont pas retournés une semaine plus tard pour voter. Et puis, quand on reporte quand même les élections à quelques heures du vote, ça décourage une grande partie de la population. Il y a aussi des rumeurs d'achat des voix, qui est une pratique malheureusement assez commune au Nigeria, et de trucage. Donc là, les jeunes étaient complètement désespérés à travers le pays.
Vous parliez du bilan de Buhari. Quand il est arrivé au pouvoir, le pays venait tout juste de devenir la première puissance économique du pays. Donc du point de vue de l'économie, il y avait plutôt une très bonne dynamique. Alors il y avait effectivement des gros problèmes sécuritaires qui sont peut-être aujourd'hui moins importants. On pense évidemment aux violences liées à la secte Boko Haram. Le bilan est sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, il est mauvais de Buhari?
Alors, vous avez raison de rappeler que quand il a été élu en 2015, le pays venait de passer première puissance économique du continent, un an plus tôt. Et malheureusement, l'année d'après, le pays est rentré en récession à cause de la chute du baril du pétrole, mais aussi à cause de ses mauvais choix. Et il n'a pas réussi à... La croissance est remontée, mais pas assez. Il n'a pas réussi à diversifier l'économie qui est toujours très dépendante du pétrole. Et par ailleurs, je ne sais pas à quel point on peut dire que le bilan sécuritaire va mieux. Alors, effectivement, Boko Haram...
Fin 2017, Buhari avait annoncé ni plus ni moins que l'éradication de Boko Haram. Hein.
Ouais, alors fin 2015 même, il avait déjà annoncé qu'il était vaincu. Alors, effectivement, sur le terrain, Boko Haram a reculé. Là, il est dans des villages de plus en plus reculés, de moins en moins dans les villes, dans l'état du Borno, au nord-est du Nigeria. Mais cette année, Boko Haram a multiplié les attaques contre l'armée, qui est très affaiblie, et ça fait des milliers de morts jusqu'à aujourd'hui. Donc Boko Haram existe toujours, contrairement à ce qu'a affirmé Monsieur Buhari. Il n'a pas été vaincu. Et par ailleurs, ces dernières années ont vu l'arrivée la complication d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs qui ferait encore plus de morts. Donc le bilan sécuritaire est là aussi décevant.
On va y revenir. Vous parliez de l'armée. Il faut peut-être aussi ajouter que l'armée nigériane elle a largement participé à alimenter justement ce cycle de violence. Boko Haram est au fond pas le seul responsable. Il y a aussi une autre question sur laquelle on peut peut-être se pencher, Ralia Kadiri, c'est celle de la corruption. Quand il a été élu, Buhari, il avait cette image d'homme intègre et donc on comptait sur lui pour lutter contre la corruption. Sur ce volet-là, quel bilan on peut faire ?
Pareil, c'est assez décevant parce que si on prend un chiffre, le classement à Transparency International qui mesure en fait la perception de la corruption, le pays est passé de la 133e à la 144e place que Aboubakar a beaucoup rappelé pendant la campagne. Et c'est parce que le président, c'est certainement parce qu'il n'a pas été assez actif, on l'accuse d'immobilisme et d'avoir aussi mené cette guerre plutôt dans le camp de l'opposition et qu'il n'y a pas vraiment eu d'accusations, il n'y a pas eu de personnes qui ont été condamnées véritablement. Donc c'est pareil, la corruption est toujours profondément ancrée dans le système à toutes les échelles.
Donc bilan très maigre là encore. À l'approche des élections, vous avez écrit toute une série d'articles intitulés « Fractures nigérianes ». Elle s'ouvre sur Makoko, qui est un bidonville de Lagos, situé au pied quasiment des gratte-ciels, pas quasiment, au pied des gratte-ciels de cette capitale économique. Un bidonville auquel on accède en empruntant des petits ponts faits de planches de bois sur lesquelles faut marcher pour éviter d'enfoncer les pieds dans des eaux croupies dans lesquelles viennent se déverser les égouts de la ville. Vous dites que Makoko, c'est la version post-apocalyptique de Venise.
Oui, parce que en fait, ça rappelle Venise, dans, comme vous le disiez, l'accès et le transport, c'est avec des petites barques, mais de manière complètement c'est dévasté. La pauvreté là-bas est absolument choquante. Et malheureusement, c'est un bidonville emblématique, parce que voilà, visuellement, ça choque, mais c'est un bidonville parmi d'autres dans la ville de Lagos.
Menacé de destruction.
Oui.
Pour quelle raison?
Avec l'urbanisation, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans les autres villes africaines, mais qui se fait vraiment dans le chaos. Lagos, il faut le rappeler, c'est 20 millions d'habitants à peu près. Et donc, avec cette surpopulation, on a besoin de terres. Et ces gens-là, notamment les habitants de Makoko, sont arrivés il y a plusieurs années, plusieurs décennies, sur des terres qui appartiennent à l'État et qu'aujourd'hui, l'État veut vendre pour construire des nouveaux projets immobiliers, comme ça se fait partout. Et donc, aujourd'hui, ils sont menacés d'expulsion. En 2012, ils avaient commencé à expulser les gens. Il y a eu un mort, donc ça a retardé ça. Mmh. Et aujourd'hui, c'était un enjeu électoral dans cette partie de Lagos.
Il y a d'autres bidonvilles qui ont évidemment été détruits pour laisser place à ces fameux gratte-ciel. Où est-ce que vont les gens quand on les déloge? Est-ce qu'on organise un peu leur relogement?
Non, il n'y a pas d'organisation. Les gens se débrouillent, ils vont dans de la famille. Il y a des familles qui sont disloquées, des enfants qui sont envoyés chez des oncles et des tantes à travers l'état de Lagos et des parents qui parfois vivent dans la rue en attendant de trouver une nouvelle terre où ils vont pouvoir aller s'installer en attendant voilà, que le coup près tombe à nouveau.
Justement, l'absence de l'État, c'est aussi quelque chose que vous avez vu dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Vous avez fait un reportage sur une entreprise de recyclage d'ordures à Lagos. Son patron est un homme très précis, dites-vous. Il emploie des milliers de personnes. Et cette aventure entrepreneuriale, justement, elle est symptomatique de ce qui se passe au Nigeria, au fond, où des solutions autonomes et locales émergent du fait des insuffisances de l'État.
Oui, on a voulu aller voir ces start-up qui se créent en fait sur le vide qu'a provoqué l'État, puisque l'électricité, la collecte des déchets, l'eau, les égouts, tout ça n'existe pas ou alors a été privatisé. Et en l'occurrence, des hommes d'affaires, des jeunes, ont voulu profiter de ce vide-là pour pouvoir créer des affaires et monter des business.
Ça marche? C'est économiquement rentable?
Pas encore, parce que les taxes sont très élevées et parce que l'État n'aide pas. Mais ça marche dans le fonctionnement, on va dire. Et aujourd'hui, il y a des gens pour qui la collecte de déchets n'existait pas avant. C'est quelque chose qui se fait que dans les quartiers riches de Lagos. Le reste, vous voyez les montagnes de déchets qui s'amoncellent dans la rue. Et là, justement, cette entreprise propose de faire de l'argent en collectant les déchets puisqu'ils sont recyclés et revendus à des entreprises de recyclage.
Vous parliez de l'électricité. Vous rappelez dans votre papier que 20 millions de Nigérians n'ont pas accès à l'électricité. C'est quand même quasiment 10% de la population. Il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, comment se fait-il que dans un État qui quand même dispose d'énormément de pétrole, on ait comme ça des problèmes d'énergie? Et puis ensuite, pourquoi les investisseurs viennent pas? 20 millions de personnes, ça représente un marché colossal. Alors pourquoi les investisseurs, et notamment les étrangers, ne viennent pas pour tirer profit de ce marché?
Je comprends qu'on se pose la question parce que le Nigeria, c'est la première économie du continent et pourtant c'est celle où vivent le plus grand nombre de pauvres de la planète. Cette année, le Nigeria a détrôné l'Inde. Donc il y a vraiment ce grand écart et quand on voit toutes les entreprises qui se créent et pas d'électricité, on se pose la question. Il y a des investisseurs, quelques investisseurs étrangers qui viennent et qui proposent des solutions hors réseau, mais pour le moment le marché est bouché, ça coûte trop cher l'électricité déjà. C'est pas un marché spécialement rentable qui attirerait les investisseurs qui iraient plutôt vers le marché du pétrole.
Alors on quitte Lagos, Ralia Kadiri, vous êtes rendu dans le centre du pays, à la limite vraiment entre le nord et le sud, qui est le lieu de frottement entre des populations chrétiennes et musulmanes, donc on est assez loin pour le coup, des fiefs de Boko Haram qui sont beaucoup plus au nord. On est à quelques jours des élections, dans une paroisse du village de Myongo, où le pasteur Sunday Kosu prononce un discours très accusateur à l'égard des musulmans, expliquant qu'ils sont dangereux et qu'ils finiront par tous les tuer. Comment comprendre ce discours de ce révérend, quels sont au fond les moteurs de cette haine à l'égard des musulmans qu'ils témoignent?
Alors, c'est un sujet très complexe et qui a lieu dans cette Middle Belt, donc la ceinture centrale du Nigeria où se frottent, comme vous avez dit, les deux religions. Et dans chaque État, en fait, il y a des raisons différentes. Mais dans le cas de ce révérend, en fait, il avait un discours très très dur envers les musulmans qu'il accuse de vouloir faire le djihad dans le pays.
Mais le djihad a recommencé, vous dites-il.
Oui, parce qu'en fait, il y a eu un djihad à la fin du 18e siècle d'Ousmane Danfodio, qui a islamisé en fait le nord du pays. Et c'est vrai que c'est resté dans la mémoire collective dans cet État qui avait échappé au djihad. Et on a l'impression qu'il y a un grand complot international des musulmans qui vont venir enfin islamiser tout le reste du pays. Alors en fait, ça part d'un conflit d'abord économique et politique, puisque les éleveurs qui sont généralement peu musulmans et les agriculteurs qui sont chrétiens et autochtones s'affrontent depuis quelques années. Sur fond de contexte de changement climatique, de course à la terre, etc. Et les politiciens, parce que la politique au niveau des structures locales est assez importante au Nigeria, ont instrumentalisé le conflit qui est devenu en fait religieux. Oui. Alors qu'avant, ces gens-là vivaient ensemble, mangeaient ensemble, se mariaient entre eux. Il n'y a rien de religieux initialement.
Et si on vous comprend bien, en tout cas c'est ce que j'ai lu, finalement c'est aussi cette instrumentalisation, le fruit de la démocratisation, parce que effectivement vous rencontrez l'archevêque de l'État du Plateau, Ignatius Kaigami, qui vous dit qu'en fait c'est pas un conflit confessionnel au départ, c'est un conflit économique et politique. Et ce que vous raconte un anthropologue, un spécialiste de la région, c'est que les choses sont envenimées dans les années 90 autour du contrôle de la ville de Jos, qui est la capitale de l'État, et que le retour de la démocratie a aggravé les choses parce que les politiques ont commencé à chercher à instrumentaliser toutes ces rivalités politiques.
En fait, ça a commencé dans les années 90. Jos, qui était la capitale de l'État du Plateau, était en fait le lieu de lutte de pouvoir, mais comme on était encore dans une dictature militaire, donc jusqu'en 1999 au Nigeria, les militaires contenaient en fait les revendications politiques et communautaires. Et en fait, dès qu'on était de retour à un régime civil, c'est vrai que les choses ont commencé à exploser. Il y a eu, enfin, on va dire l'étincelle, c'était en 2001 quand une femme a tenté de traverser la rue en plein milieu de la prière du vendredi, et des émeutes ont commencé parce qu'on l'a pas laissé traverser. Et à partir de là, les communautés Hausa, qui sont musulmanes, mais qui n'ont rien à voir avec les Peuls, ils n'ont pas la même culture, la même langue, etc., ont été assimilés sous prétexte qu'ils étaient tous musulmans. Donc le conflit s'est étendu dans les villages, les communautés rurales. Et puis là, ça a été un cycle de violence. On attaque, on se venge. Et 18 ans plus tard, aujourd'hui, on ne sait même plus pourquoi on se bat. On sait juste qu'on déteste les musulmans, on déteste les chrétiens, et on a presque oublié, en fait, d'où ce conflit vient.
Et que fait le gouvernement? Que voilà, fait Buhari?
Derrière, le gouvernement ne fait rien à partir du moment où il n'y a eu aucune étude de terrain. On sait que ça peut être dû au changement climatique, mais aucun scientifique est allé voir si les microclimats avaient modifié la façon de travailler pour les agriculteurs, s'il y avait des conséquences. Le gouvernement encourage une agriculture extensive, alors que le pays s'agrandit, il y a de plus en plus de gens, donc moins de terres, au lieu d'encourager une agriculture intensive. Donc ça envenime les choses et le gouvernement ne fait rien. Et par ailleurs, Buhari, qui est peul, enfin ça c'est encore un débat, est accusé de ne rien faire, voire de prendre le parti des éleveurs qui sont peuls.
C'est le cas?
Les éleveurs sont peuls.
Non, c'est le cas. Est-ce que Buhari prend le parti des peuls?
On peut pas dire qu'il prend le parti, mais on peut dire qu'il n'a rien fait. Parce que le gouvernement, même à l'échelle locale, rien n'a été fait. L'armée est corrompue. On soupçonne l'armée d'avoir laissé se dérouler des conflits.
Il n'y a jamais d'enquête de police, il n'y a jamais de judiciarisation dans les affaires de meurtre.
Il y a des enquêtes. J'ai rencontré un général qui il y a quand même une mission qui est en cours. Il y a des gens qui essayent. Mais à l'échelle de l'État fédéral, Buhari a fait très peu de déclarations à ce sujet-là, alors que c'est en train de devenir le conflit le plus important. Hier et avant-hier, il y a encore eu des dizaines de morts.
Khalia Kadiri, traditionnellement, le paysage politique nigérian, il est structuré autour des identités ethniques et confessionnelles. Il se trouve que là, durant le scrutin dont on a parlé un peu au début de notre échange, si les deux principaux candidats étaient des candidats musulmans. Si on regarde la dernière fois, Jonathan était un candidat, lui, chrétien. Est-ce que ça veut dire que, finalement, le paysage politique nigérian est en train de se déconfessionnaliser, ou est-ce qu'il ne faudrait pas aller trop vite en besogne?
Non, je pense qu'il ne faudrait pas aller trop vite, mais effectivement, c'est différent du scrutin de 2015 où il y avait un chrétien, le président sortant, et Bouhari musulman. Et là, deux musulmans, ça voulait dire que l'enjeu allait être autre que confessionnel. Et il s'est joué sur, en fait, c'était des enjeux complètement locaux et de démographie, comme j'expliquais au départ. Il y avait aussi cette image que Bouhari donne à la population d'homme fort, d'ancien dictateur, qui n'est pas corrompu, ou en tout cas moins que les autres l'ont été. C'est ça qui a certainement joué dans son élection cette année.
Merci beaucoup, Ralia Kadiri, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde Afrique et qu'on peut relire l'ensemble de vos reportages, de vos documentaires sur le site du Monde. Merci infiniment. Nigeria, on va s'intéresser tout de suite au risque nucléaire. Est-ce qu'on est en face d'un retour du risque nucléaire? C'est la question qu'on va se poser.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Oui, puisque cette semaine se tenait, je le disais tout à l'heure, un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Au menu de la rencontre, des discussions évidemment autour de la dénucléarisation de la Corée du Nord qui n'ont pas vraiment abouti au résultat escompté.
En North Korea, oui. Just left Chairman Kim.
Concernant la Corée du Nord, nous venons à l'instant de quitter le président Kim. Le temps que nous avons passé ensemble a été très productif. Nous avons estimé, et j'ai estimé, ainsi que le secrétaire d'État Mike Pompeo, que ce ne serait pas une bonne chose de signer quoi que ce soit. Kim Jong-un est un sacré bonhomme, un sacré personnage. Notre relation est très forte, mais à ce stade, nous avions différentes options, et à ce stade, nous avons décidé de n'en retenir aucune. Nous verrons où cela nous mènera. Ces deux jours ont été très intéressants et très productifs quand même. Mais parfois, il faut quitter les négociations.
Voilà, et effectivement, les deux chefs d'État se sont quittés un peu prématurément, sans signer d'accord. Est-ce à dire que les espoirs de dénucléarisation sont morts? Et au-delà de la péninsule coréenne, quel est l'état de la menace nucléaire? Est-ce qu'on assiste à un retour de la course aux armements? Pour évoquer ces questions, Antoine Bondaz et Corentin Brucelin sont nos invités. Notre partenaire du Monde, Marc Semo. Je commence avec vous, Marc. On attendait beaucoup de cette rencontre entre Trump et le leader nord-coréen, peut-être même d'ailleurs beaucoup trop. Finalement, il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu d'accord. Par ailleurs, au même moment, on avait aussi deux puissances de la région, on en reparlera à un moment dans cette émission, qui s'engageaient dans une dangereuse escalade, l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires. Non loin encore, on a une Chine qui est en train de renforcer son arsenal nucléaire. Même chose du côté des États-Unis et de la Russie, qui par ailleurs, je le disais tout à l'heure, sont sortis il y a quelques mois du traité sur les armes nucléaires. Bref, derrière ce réchauffement historique, on a dit historique, entre les États-Unis et la Corée du Nord, et les pourparlers sur la dénucléarisation, eh bien, on est en train de... C'est tout l'inverse, au fond, qui est en train d'advenir, à savoir un retour du risque nucléaire, Marc Semo.
Il y a ce retour. Alors, pour en revenir au cas de la Corée du Nord, l'objectif est d'arriver à une dénucléarisation de la Corée du Nord, complète, vérifiable et irréversible. Donc, chacun de ces mots compte. Alors, c'était ce que rappellent les résolutions de l'ONU sur les sanctions. C'est l'objectif avoué de Washington. Et de fait, le grand risque du sommet de Hanoï aurait été de voir Donald Trump à l'affût d'un succès diplomatique, voire même rêvant du prix Nobel de la paix, se contenter d'une ébauche d'accord complètement bradée, noyant la question nucléaire dans un cadre plus général sur la pacification de la péninsule coréenne. Et puis de faire des engagements creux, comme ça avait été le cas en juin 2018 à Singapour. Alors, sous la pression de son entourage, et notamment de Mike Pompeo, qui est le chef de cette diplomatie, mais qui est aussi l'ancien patron de la CIA, il n'a pas cédé. Mais ça vient nous rappeler à quel point c'est difficile d'arriver à un véritable accord avec Pyongyang, parce que le nucléaire, c'est l'assurance vie de ce régime. Dans ce cas, et c'est la grande différence avec l'Iran, la Corée du Nord est déjà une puissance nucléaire, avec des bombes, avec des missiles, qui peuvent même aller jusqu'au Japon, voire frapper des bases américaines dans le Pacifique. Et là, ce qui est en jeu, c'est tout l'avenir du traité, de la non-prolifération du traité. Alors ce traité, je le rappelle brièvement, reconnaît 5 puissances nucléaires dites dotées, ce sont les membres permanents du Conseil de sécurité, Et il y a un certain nombre de puissances nucléaires de fait, qui ne sont pas parties au traité, comme le Pakistan, l'Inde et Israël. Alors, le fait que Pyongyang, et je vais finir là-dessus, ait réussi à se doter du feu nucléaire malgré les pressions et les sanctions, est plutôt angoissant. Alors, selon la célèbre phrase de Raymond Aron, qui aime beaucoup citer Corentin Brousselin, le nucléaire contient l'extrême violence, dans les deux sens du terme. Et finalement, ça a marché. Hein, durant tout le temps de la guerre froide, l'équilibre, il y a eu cet équilibre de la terreur avec la peur de l'anéantissement réciproque. Alors, est-ce que c'est toujours valable? On le voit avec le risque d'escalade entre l'Inde et le Pakistan. Le nucléaire est à la fois un facteur de retenue, mais aussi un facteur de risque.
Alors, on va évidemment revenir sur l'ensemble des sujets que vous avez évoqués, Marc, mais on va peut-être commencer avec vraiment le sommet de Hanoï. Je vais me tourner vers vous, Antoine Monda, si vous le permettez. La dernière fois que vous étiez venu après le sommet de Singapour, je vous avais demandé si on pouvait parler de succès ou de demi-succès. Là, je vais un peu renverser la question. Est-ce que c'est un échec, un demi-échec? Un échec, c'est sûr.
C'est un échec. Le sommet n'a pas été inutile puisqu'il permet de confirmer le processus de négociation et le format des négociations, qui est une approche à travers le niveau présidentiel. Deuxièmement, l'objectif était de formaliser et de concrétiser les engagements qui avaient été annoncés à Singapour, pas seulement sur la question de la dénucléarisation, c'était le troisième point de la déclaration, mais aussi sur les nouvelles relations, le traité de paix, et puis un quatrième point sur le rapatriement des soldats américains morts pendant la guerre de Corée. Là, évidemment, c'est un échec, il n'y a pas eu d'avancée, et ça nous révèle plusieurs choses, notamment que c'est désormais aux négociateurs de faire leur travail. Ils n'ont pas eu le temps de le faire, le sommet de Singapour, c'était il y a 8 mois, mais les négociations ont réellement commencé il y a seulement 6 semaines entre Washington et Pyongyang, et vous imaginez bien que si on n'a pas réussi à résoudre la crise nucléaire depuis les années 90, c'est pas en 6 semaines, que ce soit le président Trump ou n'importe quel autre président, qu'on va être capable de le faire aujourd'hui, d'autant plus que la position de négociation de la Corée du Nord est plus forte que jamais, puisqu'il faut vraiment le rappeler, hein, la Corée du Nord a arrêté les essais, mais son arsenal nucléaire et balistique continue de s'accroître, et donc la force de la négociation nord-coréenne est de plus en plus importante.
Corentin Brousselin, quel bilan vous faites-vous de ce sommet, et peut-être plus généralement de l'action de Donald Trump depuis effectivement le sommet de Singapour? Le bilan, c'est quoi aujourd'hui?
Ben, pour parler du succès du sommet, pour évaluer le succès du sommet, il faut déjà se poser la question des ambitions des uns et des autres. Et c'est vrai que, je rejoins parfaitement Antoine Bondaz, si on se place dans une perspective américaine, si on se place dans une perspective nord-coréenne, on a atteint beaucoup moins que ce qu'on escomptait atteindre. De ma perspective, si vous voulez, j'avais plutôt les craintes qu'évoquait Marc Semo dans son propos, c'est-à-dire je craignais d'abord un mauvais accord si vous voulez, la perspective d'avoir une pression tellement forte, une initiative tellement forte de Donald Trump en faveur d'une signature d'un deal quel qu'il soit, me préoccupait, parce que la tendance, c'était ce qui était le plus visible depuis les derniers mois. Sa volonté explicite d'arriver à un accord quel que soit le coût, même et malgré les déclarations nord-coréennes très franches, explicites là aussi, en faisait un leader qu'il est facile de manipuler. D'ailleurs, on voit, il avait une telle volonté explicite, affichée, il avait une telle vision de lui-même et de sa capacité à obtenir un accord. Et il avait une telle volonté d'obtenir un accord rapidement avec la Corée du Nord que, du point de vue nord-coréen, on pensait qu'on avait une position forte de négociation, et on a une position forte de négociation. Et le risque, c'était que, confronté à l'échec de son approche très personnelle des négociations de sa relation avec Kim Jong-un, il claque la porte comme ça a été le cas, mais qu'il en ressorte avec une rhétorique beaucoup plus franche et beaucoup plus martiale. Ce qu'on voit, et c'est peut-être l'un des aspects plutôt rassurants, c'est qu'il n'y a pas de fin du dialogue, de part et d'autre, on voit un intérêt renouvelé pour maintenir un dialogue.
On va essayer de revenir dans un instant sur, au fond, ce qu'attendent les deux parties pour essayer de bien comprendre les choses. Mais Marc Sebo d'abord.
Oui, mais j'en reviens tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer sérieusement aujourd'hui qu'il y ait une dénucléarisation complète, vérifiable et réversible de la Corée du Nord? De fait, aujourd'hui, c'est quand même l'élément nouveau. La Corée du Nord est une puissance nucléaire. Si l'on regarde les pays qui essayaient de se doter de l'arme nucléaire et qui ont renoncé, alors la Libye de Kadhafi, l'Irak de Saddam Hussein ont assez mal fini comme dictateur. Même l'Ukraine qui avait signé cet accord renonçant à son arsenal nucléaire qui était pourtant garanti par les Britanniques, les Français et aussi les Russes. On voit aujourd'hui ce qu'il en est avec la Crimée et l'Est de l'Ukraine. Donc finalement, pourquoi la Corée du Nord renoncerait réellement à l'arme nucléaire et est-ce qu'il y a réellement moyen de l'y contraindre ?
Antoine Bondaz.
Je pense qu'il y a une lecture politique et une lecture, entre guillemets, un peu plus réaliste. La lecture politique, elle est qu'on ne peut pas accepter autre chose que la dénucléarisation de la Corée du Nord. Et ça doit rester l'objectif et l'horizon de la diplomatie internationale. La réalité, évidemment, c'est que à court terme, ce qu'il faut, c'est réussir à travers une sorte de contrôle des armements. Évidemment, on ne peut pas forcément employer ce terme, mais d'arriver à limiter les capacités nucléaires et balistiques nord-coréennes. Si déjà on arrive à les limiter, ce sera une bonne chose, puisqu'encore une fois, elles continuent de s'accroître. Du point de vue nord-coréen, la situation actuelle, elle n'est pas forcément catastrophique. Encore une fois, son arsenal continue de s'accroître, donc ça donne une position de force, quelle que soit l'administration prochaine, que ce soit Trump ou une autre. Les sanctions font mal à l'économie, mais la Corée du Nord peut s'en sortir. J'étais à Pyongyang il y a quelques mois. La ville de Pyongyang, qui est une bulle dont l'objectif est vraiment de satisfaire l'élite, vit bien. Vous avez un développement économique à Pyongyang. Vous avez un niveau de vie à Pyongyang qui continue de s'accroître malgré les sanctions économiques. Et puis, l'arme nucléaire, vous l'avez dit, il y a une dimension dissuasion. On ne veut pas finir comme Kadhafi, on ne veut pas finir comme Saddam Hussein. Mais il y a aussi une dimension politique fondamentale. L'arme nucléaire, c'est un marqueur identitaire du régime. Elle permet de renforcer le caractère dynastique, de renforcer la légitimité de Kim Jong-un. Elle a permis en interne de mettre en avant des factions, que ce soit l'armée, que ce soit les scientifiques. Et vous ne pouvez pas, au sein du régime nord-coréen, demander à ces factions du jour au lendemain d'abandonner l'arme. Et dans le format des négociations et dans la composition de la délégation nord-coréenne, vous aviez indirectement ce facteur-là. Le numéro 2 de la délégation, c'était Kim Jong-chol, qui est l'ancien responsable des services de renseignement nord-coréens, qui représente un peu la ligne dure à Pyongyang et qui représente ses intérêts. Pour être très honnête, les Nord-Coréens ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'une paix de fait, ils n'ont pas forcément besoin d'une paix signée, puisque ça changerait considérablement les équilibres au sein du régime, mais aussi la société, etc.
J'ai deux questions, et j'en ai une pour vous, Antoine Bondaz, et une pour vous, Corentin Brucelin. Si vous permettez, on va rester sur la Corée du Nord, côté Corée du Nord, parce que le régime de Pyongyang, ce qu'il voulait, c'était la fin des sanctions américaines, en tout cas, levée d'une partie, ce que Trump a refusé. On va faire l'hypothèse que Trump accepte une levée partielle, au moins, des sanctions. Quelles sont les concessions auxquelles Kim Jong-un est prêt de... Qu'est-ce qu'il est prêt à donner en échange ?
Alors, ce qui était sur la table à Hanoï, c'était que les Nord-Coréens proposaient le retour des inspecteurs et le démantèlement, in fine, de l'ensemble du complexe de Yongbyon, qui permet d'enrichir à la fois du plutonium et surtout de l'uranium, en échange d'une levée partielle, comme il l'annonce, des sanctions, mais qui concerne en réalité les 5 dernières sanctions de l'ONU, c'est-à-dire l'ensemble des sanctions économique, oui. Puisque les sanctions précédentes sont des sanctions de non-prolifération. Concrètement, c'est vous n'avez pas le droit de vendre des missiles ou d'envoyer vos chercheurs à Pyongyang. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que la Corée du Nord démantelait une partie de sa capacité d'enrichissement, pas l'intégralité, seulement une partie, uniquement ce qu'il y a à Yongbyon, en échange de la fin de l'ensemble des sanctions économiques. Ça veut dire concrètement que la Corée du Nord a encore des capacités, elle peut encore les accroître un peu et qu'il n'y a plus aucune sanction.
Corentin Brucelin, côté États-Unis, un tout petit peu de fatigue, mais ça va passer. Ce que voulait le leader nord-coréen, c'est que les États-Unis cessent de protéger la Corée du Sud avec son parapluie nucléaire. Parce que quand on parle, nous, de dénucléarisation, on pense à la Corée du Nord. Sauf que quand, du côté de Pyongyang, on pense à la dénucléarisation de l'ensemble de la péninsule coréenne. Est-ce que les États-Unis seraient prêts à retirer ce parapluie nucléaire à la Corée du Sud ?
Espérons que non. Mais ça rejoint la discussion, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la valeur attribuée à Washington à ses alliances, c'est-à-dire à sa relation bilatérale avec Séoul, sa relation bilatérale avec le Japon, etc., etc. Et effectivement, Pyongyang a une carte à jouer dans la mesure où les propos de Trump ne donnent pas particulièrement l'impression que le leadership américain est en bonne santé, que les États-Unis vont continuer à défendre leurs alliés coûte que coûte. Il y a un des changements les plus marquants, si vous voulez, depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est le changement de mots, de logiciels concernant les alliances où on a des relations qui sont moins des relations de confiance peut-être et peut-être que des relations commerciales où Trump, la seule variable qui le préoccupe, c'est cette balance commerciale, c'est comment est-ce qu'on peut l'améliorer et en fait c'est comment est-ce que les alliés peuvent payer pour leur protection. Et donc Trump ne cesse de dire que ne cesse d'évaluer ses alliés à l'aune d'un seul critère, est-ce qu'ils payent suffisamment pour leur seule protection. Du point de vue de la Corée du Nord, c'est une opportunité fantastique et à mon sens, l'objectif pour eux, c'est de voir ce qu'ils peuvent concéder de leur arsenal nucléaire, qu'a évoqué Antoine, en échange de ce type de résultats. Là, c'était effectivement une ambition plus limitée. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la position de Trump, qui est une position très personnelle, est marginale au sein de son administration, n'a pas prévalu et que ce qui a prévalu de manière heureuse, c'est l'avis de ses conseillers, l'avis du département d'État.
Il écoute plus qu'on ne le pourrait le penser, ses conseillers. Marc Sémon, Antoine Bondaz.
Approchez-vous
du micro, Marc.
À vous écouter l'un et l'autre, finalement, notamment à propos du régime nord-coréen, ça paye le nucléaire. Donc, vous expliquiez tout à l'heure à quel point la Corée du Nord est en position de force. Donc finalement, est-ce que c'est la fin du traité de non-prolifération? Parce que c'est quand même ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut se doter tout seul de l'arme nucléaire. Alors il faudra rappeler d'ailleurs le rôle qu'a joué le Pakistan dans le programme nucléaire nord-coréen, et notamment Abdul Kir Khan. Mais voilà, donc finalement ça paye. On est reconnu, on est traité sur un pied d'égalité, on devient une grande puissance... état de fait, donc finalement le TNP à quoi bon et finalement est-ce que ça peut faire des émules?
Symboliquement, c'est en partie ce qui est en train de se passer, alors avec plusieurs points importants. La Corée du Nord, ça on peut le débattre hein, sur le plan légal, mais c'est retiré du traité de non-prolifération en 2003. Et donc c'est un cas très particulier. Deuxièmement, l'objectif de la communauté internationale, c'est de faire également, il faut le rappeler, de la Corée du Nord un exemple. Vous pouvez essayer d'obtenir des capacités nucléaires, il y a un prix et un coût. Est-ce que vous êtes prêt, comme la Corée du Nord, à payer ce prix et ce coût économique, cet isolement diplomatique, etc. La Corée du Nord, par son histoire, par son système politique, est un régime extrêmement particulier. Et je ne suis pas sûr que ce soit un modèle qui peut être suivi par d'autres pays. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue nord-coréen, vous avez tout à fait raison, cette arme nucléaire, elle a permis de débloquer une situation. Quand vous êtes à Pyongyang, ce qu'on vous dit très clairement, c'est le nucléaire a permis... à travers la dissuasion, d'apporter plus de stabilité dans la péninsule. Grâce à cette stabilité, nous pouvons désormais nous concentrer sur l'économie. Et c'est extrêmement compliqué, lorsque vous discutez avec des officiels nord-coréens, d'avoir des arguments pour leur dire « il faut vous dénucléariser ». Ce qu'ils disent souvent dans les conférences internationales, c'est « est-ce que vous pensez vraiment que Donald Trump nous proposerait le paradis économique et des investissements si nous n'avions pas l'arme ? Si demain nous ne l'avons pas, Trump ne nous proposera rien. » Et donc, c'est cet argument qui est extrêmement compliqué de Trump, de dire « Ah ben, on vous promet un potentiel économique incroyable, la Corée du Nord, 20 millions d'habitants, c'est la Chine de demain. » Premièrement, c'est pas vrai. Deuxièmement, il y a des limites institutionnelles qui font que le développement nord-coréen, au-delà même des sanctions, est limité par la nature du système politique et économique. Et encore une fois, l'arme nucléaire, pour l'instant, elle reste fondamentale pour le régime.
Corentin Brusselin, tout à l'heure Marc disait ça pourrait donner des idées, pourquoi pas des idées à l'Iran finalement, puisque avec l'Iran on a passé un accord, que l'accord a été déchiré d'ailleurs, ça doit pousser les Nord-Coréens à se dire que c'est peut-être pas si intéressant de ça d'avoir un accord, puisque de toute façon en quelques mois on peut le déchirer, mais les Iraniens pourraient se dire de la même manière, ça va nous apporter de la stabilité et ensuite pourquoi pas une croissance économique, puisque de toute façon aujourd'hui ils sont déjà sous l'effet des sanctions.
Oui, mais de toute manière, si vous voulez, on n'avait pas besoin du cas nord-coréen pour convaincre certains États que l'arme nucléaire permettrait d'assurer leur sécurité, d'obtenir des concessions de la part de la communauté internationale.
Sauf que là, ça montre que ça peut marcher.
Bien sûr, de manière générale, c'était déjà le problème. Le problème de la communauté internationale, c'est comment on change le calcul. Comment on change ce calcul-là? Et c'est vrai que ce précédent-là, si ça devient un précédent, et c'est devenu un précédent de fait, c'est un précédent, mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est un précédent qui ne pourra jamais totalement atteindre le niveau politique, le niveau des diplomaties. C'est-à-dire qu'on doit continuer à œuvrer et à afficher l'ambition de ne pas considérer la Corée du Nord comme un État normal, un État qui est sorti du TNP CNP, certes, mais dans des conditions douteuses sur un plan juridique. Et c'est le seul cas d'un État à ce jour qui a fait ça, c'est-à-dire s'est engagé d'une part à ne pas se doter de l'arme nucléaire, et donc il a reçu un certain nombre de transferts de technologie dans ce cadre-là, et qui par la suite a franchi le seuil. Et si vous voulez, effectivement, il y a d'autres parallèles quand on parle de dénucléarisation. On peut parler de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un cas à part. Dans la mesure où ils n'ont jamais eu le contrôle opérationnel sur les armes, ils étaient juste.
Ils avaient les têtes.
Ils avaient des armes, ils avaient des vecteurs, ils avaient tout ça, mais ils n'ont jamais eu le contrôle opérationnel. Il y a le parallèle de l'Afrique du Sud, qui est un autre parallèle où il y a eu des armes qui ont été constituées et qui ont été démantelées par la suite de manière vérifiable. Et c'est là qu'on voit finalement que le fondement de l'équation, c'est les relations politiques. Et est-ce qu'on est en mesure de parvenir à un changement de ces relations politiques là? C'est pour ça, si vous voulez, que même si les experts nucléaires de manière générale ne croient absolument pas à la dénucléarisation, ça vaut la peine de tenter de maintenir ce dialogue là pour essayer de rapprocher les deux Corées, si jamais ça veut dire faire évoluer la perspective de Pyongyang sur l'angle politique.
Corentin Brucelin, octobre dernier, Trump annonce la fin du traité signé en 1987 entre Reagan et Gorbatchev, le FMI, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Comment interpréter cette sortie de ce traité, et est-ce qu'il faut craindre, de manière générale, une nouvelle escalade nucléaire entre les États-Unis et la Russie?
La sortie américaine du traité FNI, c'est, si vous voulez, la réalisation à Washington, ou c'est la confrontation à Washington de deux tendances, avec deux tendances. L'une, le fait que la Russie a violé le traité depuis un certain temps, selon le diagnostic américain qui est partagé par un bon nombre de communautés de renseignement.
C'est le cas. C'est,
écoutez, moi, je ne suis pas officier de renseignement. Les diplomaties occidentales et les services de renseignement occidentaux acquiescent. Donc, à partir de là, dans le cadre de l'OTAN, ça a été reconnu. Donc, il y a des bonnes raisons de penser qu'ils le violent, et il y a des bonnes raisons de penser qu'ils ont cherché à présenter à faire acte de transparence, qu'ils ont fait il y a quelques semaines, en présentant un missile qu'ils annonçaient comme respectant le traité FNI à des fins de conquête des cœurs et des esprits, c'est-à-dire on conteste la version américaine, on prend l'Occident à son propre jeu, c'est-à-dire on fait acte de transparence comme ce qui a été exigé de notre part, mais en réalité on a tellement de programmes de missiles de tous les côtés que c'est pas difficile de continuer à avoir des missiles qui violent une autre partie de l'arsenal. Donc si vous voulez, il y avait à Washington l'influence grandissante de ceux qui contestent la pertinence de la maîtrise des armements et qui la dénoncent comme une série de contraintes injustifiées sur la puissance américaine. Et de l'autre côté, vous avez l'équation asiatique qui est de plus en plus importante dans la perspective de Washington et du Pentagone en particulier.
Mais est-ce que c'est que ça, c'est-à-dire que le fait qu'au fond la Russie ne respecte pas le traité, ou est-ce que c'est aussi de la part des États-Unis? Ou est-ce que c'est aussi le fait que du côté des États-Unis peut-être, on ambitionne de redonner une nouvelle place beaucoup plus forte à l'arme nucléaire dans le dispositif sécuritaire global? Si je vous le demandais de façon un peu triviale, quelle est la place de l'arme nucléaire dans la politique sécuritaire de Trump? Quelle idée il en a?
En mon sens, il faut vraiment désagréger ces différents éléments, parce que la politique de Trump, la politique nucléaire de Trump, elle a été exposée en 2018 dans la posture nucléaire américaine. Bon, on peut discuter de est-ce que le document qui a été révélé reflétait vraiment les préférences de Trump, mais elle a été arrêtée. Et elle prévoyait de rester dans le traité FNI pour un certain temps. Voilà, l'ambition, c'était de rester dans le traité FNI. D'accord. Et d'obtenir de la Russie qu'elle y revienne. Maintenant, et c'est absolument le cas, c'était la deuxième partie de l'équation, l'Asie et la montée en puissance de la Chine, et le fait que la Chine ne soit pas contrainte par le traité FNI, a évidemment pesé massivement sur cette décision américaine de se retirer. Parce que les États-Unis considèrent que pour faire face à la montée en puissance de la Chine, ils ont besoin d'avoir des systèmes similaires. La réalisation, leur aptitude à réaliser ce type de, à mettre en œuvre ce type de choix, d'orientation est pour le moins douteuse par ailleurs.
Alors les doigts se sont levés du côté de Marc Sémo et du côté d'Antoine Bondaz. Qui y va le premier? Antoine Bondaz, allez.
Sur le cas de la Chine, les Américains officiellement ont émis l'idée qu'il faudrait multilatéraliser ce traité, c'est-à-dire intégrer les capacités chinoises. Le problème du point de vue chinois, c'est qu'on va dire entre 90 et 95% de leurs missiles seraient couverts par le traité FNI. C'est-à-dire la destruction potentiellement de 95% de l'arsenal balistique chinois. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, l'argument des Chinois est de dire que leur géographie et l'asymétrie de puissance entre les États-Unis et eux font qu'ils ont besoin de cette capacité balistique pour faire face à la menace américaine. Et troisième point, l'argument avancé par les Chinois, et c'est pour ça que les réactions ont été assez vives sur le traité FNI, mais qu'on n'en a pas non plus tant que ça, entre guillemets, par rapport par exemple, au THAAD, quand le système de défense antimissile avait été déployé en Corée du Sud, c'est que ce que nous disent les Chinois et les officiels chinois, notamment les généraux, c'est que de toute façon, les Américains auront le plus grand mal de déployer des systèmes en Asie. Ils ont des alliés, hein, évidemment, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, etc. Mais que ces pays-là refuseront d'avoir des armes nucléaires sur leur territoire. Alors, pour plusieurs raisons. En Corée du Sud, les armes nucléaires ont été retirées au début des années 90 et il n'y a pas d'armes nucléaires en Corée du Sud depuis désormais plus de 25 ans. C'était dans le cas, notamment, ensuite, ça a été institutionnalisé par une déclaration intercoréenne de non-nucléarisation à l'époque. On en est bien loin aujourd'hui. Deuxièmement, au Japon. Le Japon a une politique très particulière, les trois noms, etc., qui fait que ce sera très difficile pour les Américains de déployer des têtes.
Les trois noms, c'est quoi ?
Donc, c'est par rapport à la politique de défense japonaise, notamment de refus de stationnement d'armes nucléaires sur le territoire japonais. Et puis, l'argument des Chinois, c'est de dire que dans les autres pays d'Asie, de toute façon, ce sera très compliqué pour les Américains de déployer. Donc, vous avez une réaction qui est très vive de refus de multilatéralisation et du refus de la Chine, d'une certaine façon, de faire partie d'accords de contrôle des armements qui avaient été négociés auparavant, quand la Chine, à l'époque, avait des capacités extrêmement limitées. Et elle refuse aujourd'hui de faire rentrer ses propres capacités dans ces traités.
Corentin Brousselin.
Juste pour rebondir sur un élément, de manière générale, je suis d'accord avec ce qu'a vient de dire Antoine Bondel, c'est-à-dire que la Chine n'a aucune raison, aucune incitation pour rejoindre le traité FNI et l'idée de multilatéralisation qui avait déjà été évoquée il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, par la France, par l'Union européenne, évidemment avait trouvé lettre morte assez rapidement. La problématique du stationnement des armes se pose peut-être, et c'est là que peut-être je nuancerai ce qu'a dit Antoine, c'est la question des armes nucléaires, de stationner des nouvelles armes nucléaires dans la région, qui est une question. La préoccupation de Washington, c'est pas forcément de baser de nouvelles armes nucléaires sur un théâtre, que ce soit en Europe ou que ce soit en Asie, c'est essentiellement d'implanter de nouveaux systèmes conventionnels. Après, ces systèmes conventionnels, est-ce qu'ils seraient présentés au Japon, en Corée, comme des systèmes purement conventionnels? Est-ce qu'ils auraient une capacité nucléaire? Ils auraient forcément une capacité nucléaire. Ça susciterait tous les types de débats et d'oppositions auxquels on peut s'attendre.
Allez, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. C'est notre bulle cartooning du vendredi. Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors ce matin, un dessin très imagé.
Et oui, vous allez me dire, c'est bien normal hein, pour un dessin. mais c'est précisément le style graphique de Steph, ce dessinateur français basé en Thaïlande dont on a déjà parlé ici. Des scènes très explicites et un coup de crayon assez direct. Tenez par exemple dans ce dessin pour représenter une carte du monde. Et bien avec Steph c'est très simple. Un grand arc de cercle, un quadrillage pour les méridiens et nous voilà plantés sur le sommet du globe. Alors que s'y passe-t-il? Et bien dans un coin à droite, à la limite du hors-champ, on peut apercevoir Kim Jong-un et Donald Trump en pleine négociation. Ils sont assis l'un en face de l'autre, séparés par une table. Ils sont en plein travail productif pour reprendre les mots de Trump. Enfin, ça c'était avant que les Américains décident d'écourter la rencontre. En tout cas, ce ne sont pas eux les vedettes du dessin. Non, la scène principale se déroule au centre. Il s'agit d'une violente bagarre entre deux étranges personnages en forme de missiles nucléaires. Vous vous en doutez, il s'agit de l'Inde et du Pakistan. L'Inde qui vient d'encaisser un direct du droit en pleine poitrine. Le Pakistan qui a déjà un œil au beurre noir. L'Inde qui a également un poignard planté dans le dos. Oui, c'est assez violent, mais comme je vous le disais, Steph ne fait pas dans la dentelle. Et tandis que les deux frères ennemis, tous deux détenteurs de la bombe nucléaire, se rendent coup pour coup, eh bien Trump et Kim observent la scène. En parlant de dénucléarisation, dit Trump en les regardant sans finir sa phrase. Eh bien oui, la Corée du Nord n'est pas la seule à s'être dotée de l'arme nucléaire en dehors de tout contrôle international. L'Inde et le Pakistan sont des puissances nucléaires de fait, comme le rappelait Marc Semo. Elles ont annoncé détenir la bombe la même année, en 1998, à quelques semaines d'intervalle. Et ni l'un ni l'autre ne sont signataires du TNP, le traité de non-prolifération. Depuis 20 ans, c'est un équilibre donc toujours un peu fragile qui régit le rapport de force entre les deux nations. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le premier ministre pakistanais Imran Khan dans un discours prononcé hier, je le cite, « Avec les armes dont nous disposons tous deux, pouvons-nous nous permettre une erreur de calcul » a-t-il demandé, tout en rajoutant « Ni Modi, ni moi n'aurons le contrôle ». Et oui, tandis que toute l'attention du monde se focalise sur le dernier épisode des feux de l'amour, de la relation personnelle entre Donald Trump et Kim Jong-un, le conflit indo-pakistanais nous rappelle que le contrôle nucléaire ne se réduit pas à une question de relation entre deux chefs d'État, mais bien un problème global à l'échelle de la planète.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon pour ce dessin qu'on met évidemment sur les réseaux sociaux, le fil Twitter de l'émission, etc., etc. Réaction avec nos invités. Ce qui est frappant avec ce dessin, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'en réalité... c'est que l'administration américaine est totalement absente de ce conflit entre l'Inde et le Pakistan, qui est pourtant un conflit majeur, avec un risque nucléaire très fort. Quentin Brucelin, réaction sur ce dessin?
Oui, c'est effectivement un des éléments les plus préoccupants. Alors, c'est un peu moins préoccupant aujourd'hui, parce qu'on a déjà, de la part des leaders du sous-continent, des signes d'une volonté de désescalade. Mais l'une des variables qui était vraiment différente dans cette crise-là par rapport à 99 ou 2002, c'est effectivement qu'on n'a pas de leadership américain qui veut inciter à la modération. On a évidemment des déclarations, mais on n'a pas l'implication personnelle qu'il aurait pu y avoir au moment des essais, qu'il avait pu y avoir en 99, et qui est évidemment un facteur de contraintes assez fort pour le sous-continent indien. Maintenant, après, pour revenir sur la déclaration d'Imran Khan, je trouve que ce qui était intéressant, c'est précisément cette idée que une escalade nucléaire, c'est potentiellement incontrôlable. Et entendre ça, si vous voulez, de la part d'un dirigeant pakistanais, c'est important dans la mesure où ça veut dire qu'il s'empare quelque part du logiciel, de la grammaire de la dissuasion. Alors c'est préoccupant si on compare, si on se pose la question de est-ce que Jaïch et Mohammed agissaient sous ordre ou avec la bienveillance pakistanaise, et est-ce qu'il y a vraiment une duplicité du côté du Pakistan sur cette question de l'action irrégulière en parallèle à la dissuasion nucléaire. Ça, c'est évidemment une question préoccupante, mais c'était important d'entendre ça et d'avoir rapidement la proposition qui a été faite d'échange de retour du prisonnier, du pilote indien capturé.
Antoine Bondas, puis Marc Semo.
Ça pose aussi la question de la gestion de l'escalade militaire entre non seulement l'Inde et le Pakistan, mais aussi plus largement entre la Corée du Nord et les États-Unis. Par rapport à 2017, on a quand même des signaux positifs. Et moi, je dis souvent, il faut essayer d'avoir un optimisme, mais prudent. Mais dans la partie optimiste, il y a quand même une déclaration entre les deux Corées qui a été signée à Pyongyang en septembre, un accord militaire qui permet de multiplier les canaux de discussion entre les deux armées. Et puis directement entre la Corée du Nord et les États-Unis, il y a eu un événement extrêmement important. En réalité, on n'en a pas forcément tant parlé. C'était l'été dernier, lorsque les Nord-Coréens ont commencé à restituer les dépouilles de 200 soldats américains. Quand vous discutez avec les négociateurs américains, première chose qu'ils vous disent, c'est que c'est extrêmement important sur le plan politique. Souvent, ils donnent l'exemple du Vietnam. Le Vietnam, on avait commencé, puis 3 ans après, on normalisait les relations. Mais c'est surtout, ils vous expliquent, important sur les questions militaires, puisque ces restitutions sont faites au niveau militaire. Et donc, vous avez de fait des canaux de communication entre les deux armées. Et c'est ça, aujourd'hui, sur quoi il faut travailler entre la Corée du Nord et les États-Unis, c'est-à-dire institutionnaliser un dialogue. On attendait peut-être l'ouverture d'un bureau de liaison à Washington et Pyongyang, ça n'a pas été fait, malheureusement. Mais en tout cas, qu'au niveau officieux, derrière, entre guillemets, le rideau, on ait de plus en plus de contacts pour éviter à tout prix qu'en cas d'escalade, en cas d'incident, et ça peut évidemment toujours arriver, on puisse contrôler au mieux l'escalade.
Maximo.
Oui, alors pour en venir au propos d'Imran Khan, est-ce que c'est pas justement très mesuré, conscient de ce risque d'escalade incontrôlée, finalement, que le nucléaire est un facteur de risque, mais c'est aussi un facteur de retenue? Finalement, les grandes guerres indo-pakistanaises, c'était avant qu'ils aient la bombe. Et que, d'une certaine façon, depuis qu'ils ont eu l'un et l'autre, et comme le rappelait Florian, au même moment, la bombe. Alors, il y a eu des incidents, ça n'a jamais été très calme, notamment
mais
au Cachemire. Mais
pas aussi grave que 47-48, que 65, que 71, effectivement.
Il n'y a plus eu la guerre. Alors, est-ce que finalement, on ne se retrouve pas dans le cas de figure où le nucléaire, à condition que les dirigeants soient minimum rationnels, il y a le risque du pas de trop, mais c'est aussi un énorme facteur qui contient l'extrême violence.
Voilà, le nucléaire qui limite le risque de guerre, finalement. Un classique, Corentin Brousselin.
Oui, mais il y a ces deux éléments. Et en fait, c'est très compliqué d'en sortir à ce stade, en tout cas, de cette crise. Si jamais on peut considérer la crise comme étant terminée, on va le voir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais on ne sait pas encore quel est le facteur qui a pris le dessus. Et ça dépendra vraiment du discours qui va être produit de part et d'autre sur l'issue de cette crise.
Du Pakistan, pour le coup, il est assez clair, là, effectivement.
Imran Khan. Mais la question est jusqu'à quel point est-ce que lui contrôle tout ? Parce que le vrai problème du Pakistan, c'est que le pouvoir, c'est l'armée. Ça serait potentiellement la première bombe nucléaire islamique. La question, c'est de savoir, l'armée tient les verrous, mais qu'est-ce que l'armée pakistanaise aujourd'hui ?
Le Pakistan se présente comme, à la sortie de cette crise, en tout cas actuellement, comme une puissance nucléaire très responsable, c'est-à-dire celle qui, face à l'agression indienne, entre guillemets, je vais revenir sur ce point, face à l'agression indienne, montre sa bonne foi, montre sa volonté de ne pas escalader. On fait des frappes, mais on cible délibérément des espaces vides pour ne pas contribuer à l'escalade. On restitue le pilote, on sauve le pilote des griffes de la population qui était prête à l'agresser. Et on lui fait boire du thé, c'est délicieux, etc. Et on le restitue. La dimension communicationnelle du côté pakistanais est extrêmement intéressante. Mais est-ce que ça sera bien accepté du côté indien ? Qu'est-ce que la rhétorique indienne va dire ? Et on a quand même eu dans cette crise-là quelque chose de nouveau et de préoccupant, à mon sens, qui est qu'on voit cet apprentissage que vous évoquiez, Marc Sémo. On voit qu'on apprend à conduire des actions limitées sous le seuil de l'escalade, et on voit qu'on se limite de moins en moins aussi. C'est-à-dire que la frappe indienne, la frappe aérienne indienne qui a eu lieu, elle a eu lieu au Pakistan, non seulement au Cachemire, mais pas seulement au Cachemire, mais en territoire pakistanais. C'est-à-dire que l'Inde peut en sortir en se disant, si jamais maintenant je fais des frappes aériennes au Pakistan, ça ne suscite pas l'escalade. Qu'est-ce que ça peut donner comme idée pour la suite, pour la gestion de crise ? Et est-ce que le Pakistan est prêt à accepter ça les fois suivantes ? Donc, il y a un apprentissage qui a lieu, c'est vrai, mais jusqu'à quel point, quelles sont les leçons tirées de part et d'autre ? Et là-dessus, on manque évidemment de recul à ce stade.
Antoine Bondaz, comment se fait-il que le Pakistan ait pu développer sans aucun souci ses capacités nucléaires, alors même qu'il y avait ce traité de non-prolifération, sans que personne ne trouve à redire quoi que ce soit ?
Et l'Inde aussi,
mais le Pakistan aussi.
Vous savez, c'est compliqué, les deux pays ne faisaient pas partie du traité de non-prolifération.
Mais il n'a pas signé le traité.
Donc il n'y a pas d'engagement légal. Ensuite, vous avez évidemment des pressions potentiellement politiques. Et c'est peut-être là, évidemment, où il y a eu...
Il n'y en a pas eu, pour le coup.
Un problème, évidemment, bien sûr. J'imagine, il y en a eu. Peut-être qu'elles n'ont pas été, entre guillemets, suffisantes. Le cas de la Corée du Nord, pour y revenir, est différent. Le pays avait rejoint le TNP. Et le pays a un programme nucléaire, il faut être très honnête, depuis les années 50. Je veux dire, le programme nucléaire nord-coréen ne date pas des années 90, vous avez des recherches dès les années 50. Pour vous donner même un détail, les premières mines d'uranium en Corée du Nord avaient été exploitées par les Japonais pendant l'occupation. Donc c'est un processus qui a été extrêmement long, il a été accéléré dans les années 90. Et le problème que pose la Corée du Nord, c'est que la Corée du Nord faisait partie du traité de non-prolifération, que la Corée du Nord a signé des accords bilatéraux, notamment en 94 avec les États-Unis, et qu'elle a violé ces accords puisqu'elle a continué à avoir des programmes clandestins d'enrichissement, malgré encore une fois ces engagements internationaux.
Et est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a des pays qui finalement tirent les leçons de tout ça et se disent, on va nous aussi en avoir. On parlait tout à l'heure de l'Iran, mais on pourrait parler aussi de l'Arabie Saoudite. L'année dernière, l'Arabie Saoudite a fait savoir que dans le cas où l'Iran se réengagerait dans son processus de nucléarisation, eh bien, elle chercherait elle aussi à se nucléariser, Corentin Brousselin.
Oui, écoutez, les candidats à la prolifération actuellement ne sont pas forcément légion, et c'est heureux. Les candidats clairs à la prolifération, en tout cas, sont au nombre de 1.
C'est quel pays ?
C'est l'Iran, en fait, à ce stade.
Et l'Arabie Saoudite, c'est que de la communication ?
L'Arabie Saoudite n'a pas évoqué la possibilité de se doter d'un arsenal nucléaire, à mon sens.
Si, l'année dernière, à Riyad, dans une interview pour CNN.
Mais dans des conditions qui ne sont pas réalisées à ce stade. C'est-à-dire qu'on envisage les réactions à un Iran nucléaire de la part de l'Arabie Saoudite pourraient être.
Non, mais sauf que c'est pas n'importe quel pays, parce qu'on se dit que précisément ce pays-là, les États-Unis pourraient laisser faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas n'importe quel pays, l'Arabie Saoudite.
Bien sûr, d'où l'importance d'avoir un leadership américain sur la non-prolifération et pas simplement sur les transferts de technologie. D'où l'importance d'avoir des accords de transfert de technologie nucléaire qui sont résistants à la prolifération. Et c'est effectivement un élément qui est préoccupant du point de vue américain. Je crois pas non plus à ce stade. Je pense encore qu'il y a des leviers qui existent sur l'Arabie Saoudite qui restent forts, et notamment parce qu'il y a des leviers sur l'Iran qui restent assez efficaces.
Antoine Mondaz, en guise de conclusion.
Ça pose deux questions. Une question déjà des garanties américaines de sécurité auprès de ses alliés. On peut parler aussi de prolifération vers la Corée ou le Japon. Vous savez, vous avez une majorité des Sud-Coréens qui sont favorables à un armement nucléaire national. Et puis aussi la question, c'est peut-être pas très populaire en ce moment, de l'architecture des traités internationaux, du multilatéralisme, de l'entrée en vigueur de traités qui existent mais qui ne sont pas encore entrés en vigueur, notamment le traité d'interdiction complet des essais nucléaires. Il y a une campagne francophone qui va être lancée pour l'entrée en vigueur de ce traité. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des organisations internationales et du multilatéralisme.
Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés aujourd'hui. Antoine Mondaz, chercheur à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. J'indique également que vous êtes l'auteur de Corée du Nord plongée au cœur d'un État totalitaire, notamment parmi les ouvrages. Corentin Brusselin, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Un grand merci à notre partenaire du Monde, Marc Semo. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.